Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud. Traité Hulin, page 80, Daf P. Bonne écoute et bon limoud.
Rakma répond, Bessé va filou miktatse. Leur discussion est à savoir, est-ce que lorsque la Torah parle d'un agneau, veut-elle dire aussi un animal qui est partiellement agneau ou non? Rabbanan Tzavre, les Chachamim pensent, c'est lorsque la Torah parle d'un agneau, va filou miktatse, la Torah veut parler même d'un animal qui est uniquement partiellement agneau ou partiellement animal domestique. Par conséquent, le petit issu de ce croisement sera concerné par l'obligation de donner les prélèvements au Kohen. Rabbi Eliezer Savar, tandis que Rabbi Eliezer pense, c'est lorsque la Torah parle d'un agneau, velo miktatse, elle ne parle pas d'un animal qui n'est que partiellement agneau. Par conséquent, cet animal issu d'un croisement ne sera pas concerné par l'obligation de ces prélèvements, même s'il est en doute si nous tenons compte de la semence du père ou non. Maintenant que la Gemara a déterminé que la discussion entre les Chachamim et Rabbi Eliezer est à savoir si lorsque la Torah parle d'un agneau ou d'un animal domestique, elle veut parler aussi d'un animal qui n'est que partiellement animal domestique, il faudra revoir les enseignements concernant l'obligation de recouvrir le sang d'un animal sauvage que l'on a abattu et aussi l'enseignement concernant l'interdiction d'abattre un animal et son petit. C'est ce que la Gemara va exposer dans le daf suivant. Nous avons fini ici le shiur de Maseret Roulin, daf Ayin Tet. Nous commençons le shiur de Maseret Roulin, daf P, à la troisième ligne du haut de la page. Nous avons vu concernant le kvi, qui est un animal issu d'un croisement entre les cervidés et les caprins, une discussion entre Rabbi Eliezer et les Chachamim, concernant l'interdiction d'abattre un animal et son petit, à savoir, est-ce que cette interdiction s'applique aussi pour cet animal. Nous avons vu aussi une Mishnah, selon laquelle il est interdit d'égorger le kvi pendant Yom Tov, parce qu'il y a la possibilité qu'on soit obligé de recouvrir son sang avec de la terre, parce qu'il serait considéré comme étant un animal sauvage, et en fait, comme on ne le sait pas, on n'aura pas le droit de le faire, parce que cette action exigerait une transgression de la fête de Yom Tov. Et la Mishnah précise d'ailleurs que si on a quand même égorgé un kvi pendant Yom Tov, il sera interdit de recouvrir son sang. Troisièmement, nous avons vu une discussion entre Rabbi Eliezer et les Chachamim en ce qui concerne les prélèvements qu'il faut donner à un Kohen pour tout animal domestique qui est abattu. Il s'agit de l'épaule droite, de la mâchoire inférieure et de la panse. Il y a aussi une discussion entre Rabbi Eliezer et les Chachamim. Est-ce que le kvi est concerné par cette obligation? La Gemara a conclu que soit Rabbi Eliezer, soit les Chachamim sont d'accord que nous sommes en doute si nous tenons compte de la semence du Père. La discussion est à savoir, est-ce que lorsque la Torah parle d'un agneau, donc d'un animal domestique, est-ce qu'elle parle aussi d'un animal qui n'est que partiellement un animal domestique? Selon cette conclusion, il faut donc expliquer les discussions entre Rabbi Eliezer et les Chachamim. La Gemara dit, Amar Rav Papa Hilkar, c'est pourquoi, à la suite de cette conclusion, les Inyan Kisui Adam, en ce qui concerne le commandement de recouvrir le sang d'un animal sauvage ou matanot, et en ce qui concerne l'obligation de donner les prélèvements au Kohen, l'omashkarat, on ne pourra pas trouver ces enseignements, donc on ne pourra pas les appliquer, et la betzvi haba alataisha, uniquement dans le cas d'un cerf qui s'est accouplé avec une chèvre et qui a donné naissance à ce kvi. De ben le rabbanan ou ben le rabbi Eliezer, mesapka lehu, soit selon les chachamim, soit selon rabbi Eliezer, nous sommes en doute. Est-ce que nous tenons compte de la semence du père ou non? Finalement, nous sommes en doute. Est-ce que cet animal est considéré comme étant partiellement un animal sauvage ou non? Et leur discussion est à savoir, baissé, lorsque la Torah parle d'un agneau ou d'un animal domestique, va filou miksatse, est-ce que la Torah parle aussi d'un animal qui n'est que partiellement un agneau ou un animal domestique? Selon Chachamim, la Torah veut parler même d'un animal qui n'est que partiellement domestique, tandis que selon Rabbi Eliezer, la Torah ne parle pas d'un tel animal. Par conséquent, en ce qui concerne la mitzvah de recouvrir le sang d'un animal sauvage, puisque le père de ce kvi est un cerf, nous sommes en doute si nous tenons compte de sa semence, selon les Chachamim donc, il sera interdit de l'abattre pendant Yom Tov et de recouvrir son sang. Tandis que selon Rabbi Eliezer, puisque lorsque la Torah parle d'un animal, elle ne veut pas parler d'un animal qui n'est que partiellement ce genre d'animal, même si nous tenons compte de la semence du père, finalement, l'animal ne serait que partiellement un animal sauvage, issu d'un cerf, il n'y aura donc pas d'obligation de recouvrir son sang. On pourra même l'abattre, selon Rabbi Eliezer, pendant Yom Tov. Il est vrai cependant qu'on aurait pu établir la Mishnah selon Rabbi Eliezer en parlant d'un bouc qui se serait accouplé avec une biche et qui aurait donné naissance à ce petit. À cause du doute, on aurait dû recouvrir le sang de cet animal parce qu'il a la possibilité que nous ne tenons pas compte de la semence du père. Finalement, cet animal est entièrement un animal sauvage issu d'une biche. Pendant Yom Tov, il serait donc interdit d'abattre cet animal et de recouvrir son sang. Cependant, la Gemara n'a pas voulu établir la Mishnah uniquement selon Rabbi Eliezer. En ce qui concerne l'obligation de donner les prélèvements au Kohen, qui ne concerne que les animaux domestiques, il s'agit là aussi d'un cerf qui s'est accouplé avec une chèvre. Selon Rabbi Eliezer, puisqu'il y a la possibilité que l'on tenne compte de la semence du père, il est possible donc que cet animal ne soit considéré que partiellement un animal domestique, issu d'une chèvre. D'autre part, le Kohen ne peut pas prouver qu'on ne tient pas compte de la semence du père. Par conséquent, selon Rabbi Eliezer, le propriétaire de l'animal sera exempté de ses prélèvements. Selon les Chachamim, puisque la Torah qui parle d'un animal domestique parle aussi d'un animal qui n'est que partiellement un animal domestique, le propriétaire de l'animal devra donner au Kohen la moitié de ses prélèvements, parce que même si nous tenons compte de la semence du père, cet animal est cependant un animal qui est considéré comme étant partiellement domestique, mais il n'aura pas l'obligation de donner la seconde moitié au Kohen, parce qu'il y a la possibilité que nous tenons compte de la semence du père. Donc cet animal serait aussi considéré comme étant partiellement un animal sauvage qui est exempté de ses prélèvements. Puisque le Kohen ne peut pas prouver le contraire, il sera donc exempté de donner la seconde moitié au Kohen. Par contre, dans le cas d'un bouc qui s'est accouplé avec une biche et qui a donné naissance à cet animal, le propriétaire sera exempté de donner ses prélèvements au Kohen, soit selon Rabbi Eliezer, soit selon les Chachamim. Parce que même selon les Chachamim, puisque cet animal est issu d'une biche et il y a la possibilité que nous ne tenons pas compte de la semence du père, il est donc possible que le propriétaire soit entièrement exempté de ses prélèvements. Puisque le Kohen ne peut pas prouver le contraire, le propriétaire sera donc exempté de ses prélèvements. Les Inyan Otoved Beno, en ce qui concerne l'interdiction d'abattre un animal et son petit, Mashkachatla, on pourrait trouver cette discussion entre Rabbi Eliezer et les Chachamim, Ben Betai Shabalatzvia, soit dans le cas d'un bouc qui s'est accouplé avec une biche et qui a donné naissance à ce petit, ou Ben Betzvi Habalataisha, soit dans le cas d'un cerf qui s'est accouplé avec une chèvre. La Gemara précise, Betaïsh Habalatzvia, dans le cas d'un bouc qui s'est accouplé avec une biche, ou les Isura, et la discussion serait, est-ce qu'il est interdit d'abattre la femelle issue de ce croisement et son petit? Des Rabbanan Savre, les Chachamim pensent, Dilma Choshushin, les Zeraav, peut-être que nous tenons compte de la semence du père. Il est donc possible que cette femelle soit considérée comme étant partiellement animal domestique. Seva filumik tzatse amrinan. Et nous disons que lorsque la Torah parle d'un agneau, elle parle aussi d'un animal qui n'est que partiellement agneau. Veasur, par conséquent, il sera interdit d'abattre cette femelle avec son petit. Cependant, celui qui transgresse cette interdiction ne sera pas condamné à la flagellation, parce que finalement, il a la possibilité que nous ne tenons pas compte de la semence du père. Rabbi Eliezer, ça va. Tandis que Rabbi Eliezer pense, Nehi nami de choshim le zeraav, même s'il est vrai que nous tenons compte de la semence du père, c'est vafilumik satse lo amrinan. Nous ne disons pas que lorsque la Torah parle d'un agneau ou d'un animal domestique, elle parle aussi d'un animal qui n'est que partiellement un agneau ou un animal domestique. Par conséquent, il sera permis d'abattre la femelle issue de ce croisement avec son petit. Betzvi habala taisha, dans le cas d'un cerf qui s'est accouplé avec une chèvre, il y a aussi la même discussion entre Rabbi Eliezer et les Chachamim ou le Malkout, à savoir si la personne qui abat la femelle issue de ce croisement et son petit est condamnée à la peine de la flagellation. La Gemara précise, Rabbanan Savre, les Chachamim pensent, Nehi Nami de Choshin les Zeraav, même s'il est vrai que nous tenons compte de la semence du père, il est donc possible que cette femelle est en fait aussi partiellement un animal sauvage. Cependant, puisque cette femelle est née d'une chèvre, elle est aussi considérée comme étant partiellement un animal domestique. C'est Vafilumiksatse Amrinan. Nous disons que lorsque la Torah parle d'un agneau, nous considérons qu'elle parle aussi d'un animal qui n'est que partiellement agneau ou animal domestique. Par conséquent, si là-bas cette femelle avec son petit, ou Malkilané, il sera condamné à une peine de flagellation pour avoir transgressé l'interdiction d'abattre un animal et son petit. Rabbi Eliezer Sava, Isuraïka, il est vrai qu'il est interdit d'abattre cette femelle avec son petit, Malkout Leka, cependant, la personne qui transgresse cette interdiction ne sera pas condamnée à une peine de flagellation. La Gemara précise, Isuraïka, il y a une interdiction d'abattre cette femelle issue de ce croisement avec son petit, Dilma Enchoshin Lezeraav, parce qu'il y a la possibilité qu'on ne tenons pas compte de la semence du père. Par conséquent, Vehaïsema Aliahu, cette femelle est un véritable agneau ou animal domestique, et il est interdit donc de l'abattre avec son petit. Cependant, Malkout Leka, celui qui transgresse cette interdiction, n'est pas condamné à une peine de flagellation, et cela parce que Dilma Choshishin Lezera Haav, parce qu'il y a la possibilité qu'on ne tenons compte de la semence du père. Par conséquent, cette femelle ne serait considérée que partiellement un animal domestique, Vese Vafilu Miksatse Loamrinan, et nous ne disons pas que lorsque la Torah parle d'un agneau ou d'un animal domestique, elle veut parler aussi d'un animal qui n'est que partiellement un agneau ou un animal domestique. Amar Rav Yehuda, Kvi, ce Kvi dont nous parlons n'est pas un animal issu d'un croisement, parce que selon lui, un animal domestique ne peut pas être croisé avec un animal sauvage, mais plutôt Biria Bifne Atzmahi, c'est une créature à part. Velo Hichri Uba Chachamim, et les Chachamim ne sont pas arrivés à décider Immin Behemahi, est-ce que c'est un animal domestique, Immin Chayahi, ou bien est-ce que cet animal est un animal sauvage. C'est pour cela que pendant Yom Tov, il est interdit de l'abattre et de recouvrir son sang, parce que nous sommes en doute, est-ce que le fait de recouvrir le sang est obligatoire ou non. Rav Nachman Amar, Kvi, le Kvi dont nous parlons, Ze Aïlabar, c'est le bélier sauvage. Comme l'explique le Tosfot, selon lui, il n'y a pas de doute à ce sujet, le Kvi est un animal sauvage, voire cependant le lait varié. La Gemara conclut qu'Etanaï, cette discussion entre Rav Yehuda et Rav Nachman correspond à une discussion entre les Tanaïm. La Braïta dit, Kvi ze Aïlabar, le Kvi en question est le bélier sauvage, qui est donc, comme nous l'avons dit, un animal sauvage, Veye Shomrim, et il y en a qui disent, Zehaba minataïsh ou minatvia, c'est un animal issu d'un croisement entre le bouc et la biche. Rabbi Yossi Omer, Kvi beria bifne atzmaï, le Kvi est une créature à part, Velo hichri uba chachamim, et les chachamim ne sont pas arrivés à décider, immin chaya, immin behema, est-ce que cet animal est un animal sauvage ou un animal domestique. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, min behemahi, le Kvi est un animal domestique. Veshel bet Dushai, et les membres de la famille de Dushai, Hayu Megadlin, Mehen, Adarim, Adarim, en élevé des troupeaux entiers. Amar Rabbi Zera, Amar Safra, Amar Rav Hamnuna, Hane Ize de Bala, ces chèvres de la forêt, donc ces chèvres sauvages, Ksherot Legabe Misbeach, sont aptes à être offertes sur l'autel comme sacrifice en tant que chèvres. C'est-à-dire, selon lui, les chèvres sauvages sont en fait des chèvres, donc des animaux domestiques, et non pas des animaux sauvages. Savarla, Kiha d'Amar Rabbi Itrak, il pense, comme ce qu'a dit Rabbi Itrak, Eser Behemot Mana Hakatuv. La Torah a compté parmi les animaux comestibles 10 animaux. Vetulo, il n'y en a pas plus. Vehane, et celle-là, c'est-à-dire ces chèvres sauvages, Midelo Kachashiv Lehu Behadechayot, puisque la Torah ne les a pas comptées parmi les bêtes sauvages, Shma Mina, nous pouvons donc en conclure, De Ezninu, que ces chèvres sauvages sont en fait des chèvres, et donc sont des animaux domestiques. Matkifla, Rav Acha Bar Yaakov. Rav Acha Bar Yaakov a objecté là-dessus. Comment est-ce que tu peux conclure qu'il n'y a que 10 animaux comestibles? Ve'ema, on devrait dire, Ayal Ve'tzvi, lorsque la Torah mentionne la gazelle et le cerf, Prat, c'est un détail. Kol Behema, lorsque la Torah conclut tous les animaux, Klal, c'est une règle générale. Finalement, nous sommes en présence de Prat ou Klal, d'un détail suivi d'une règle générale, Naase Klal Moussaf Alaprat, nous disons que la règle générale étant le détail, et en fait, donc, rien n'est exclu. La Torah a mentionné le détail au début pour insister sur le fait que la règle générale est totale, il n'y a rien à exclure de cette règle générale. Par conséquent, Ikatuva, il se peut qu'il y ait beaucoup d'animaux comestibles. La Gemara demande, Imken, si c'est cela que la Torah voulait dire, Kol Hane Prate Lamali, pourquoi a-t-on besoin de tant de détails? Pourquoi est-ce que la Torah a eu besoin d'énoncer une liste de 10 animaux? Forcément, elle ne voulait pas s'exprimer sous forme de détails suivis d'une règle générale. Nous dirons donc qu'il n'y a que 10 animaux comestibles. Ces chèvres sauvages, qui ne sont pas comptées parmi les animaux sauvages, sont forcément des animaux domestiques. Matkifla, Rav Acha Bere de Rav Ika, Rav Acha fils de Rav Ika a objecté là-dessus, Vedilma Mina de Akoninu. Peut-être que ces chèvres sauvages font partie de la sorte que la Torah appelle Ako, qu'on ne connaît pas. Amarle, Rav Acha Bere de Rava le Ravashi, Rav Acha fils de Rava a posé la question suivante à Ravashi, Vamrela, il y en a qui disent que c'est Rav Acha Bere de Rav Avia qui a posé la question suivante à Ravashi, Dilma Mina de Teo, O Mina de Zemerninu. Peut-être que ces chèvres sauvages font partie de la sorte que la Torah appelle Teo, ou celle que la Torah appelle Zemer, qu'on ne connaît pas. Par conséquent, il est toujours possible que ces chèvres sauvages soient en fait des animaux sauvages, comme ce que la Torah dénomme Ako, Teo ou Zemer. Puisque c'est ainsi, ces chèvres sauvages ne sont pas aptes à être offertes comme sacrifice sur l'autel. La Gemara conclut, Amarle, Rav Hanan le Ravashi, Rav Hanan dit à Ravashi, Amemar Sharet Arbayou, Amemar permet leur graisse, parce qu'il considère ces chèvres sauvages comme étant des animaux sauvages dont la graisse est permise, contrairement à celle provenant d'un animal domestique. Ba'amine, Abba Bere de Rav Binyamin Barchia, Merav Huna Barchia, Abba, qui est le fils de Rav Binyamin Barchia, a posé la question suivante à Rav Huna Barchia. Hane Ize de Bala Mahu le Gabe Misbeach, peut-on offrir les chèvres sauvages comme sacrifice sur l'autel en tant qu'animal domestique? Amarle, Rav Huna Barchia lui a répondu, Adkan lo pligé Rabbi Yossi et Rabbanan. Jusqu'ici, nous avons vu la discussion entre Rabbi Yossi et les Chachamim et la Béchor Rabar uniquement concernant le taureau sauvage d'Etnan, car il est enseigné dans une Mishnah, dans Maserhet Kilaim, Perekret Mishnah Vav. Shor Habar, Min Behemahu, le taureau sauvage, est en fait un animal domestique. Rabbi Yossi Omer, Min Chaya, c'est une bête sauvage. Il explique, de Rabbanan Savre, les Chachamim pensent, Mi de Metar Geminan Turbala, puisque nous traduisons le terme Teo employé par la Torah par Turbala qui veut dire taureau sauvage. Forcément, si nous nous appuyons sur le nom de l'animal que nous appelons taureau, Mina de Behemahu, nous pouvons conclure qu'il s'agit d'un animal domestique. Par conséquent, sa graisse sera interdite et cet animal pourra être offert comme sacrifice sur l'autel. Rabbi Yossi Savar, Mideka Hashivle Behadechayot, puisque la Torah compte le Teo parmi les bêtes sauvages, Mina de Chayahu, ce taureau sauvage sera donc un animal sauvage qui ne pourra pas être offert comme sacrifice sur l'autel et dont la graisse sera permise à Valhané, mais celle-ci, donc ces chèvres sauvages, puisque la Torah ne les a pas mentionnées à part, d'Ivra Akol, selon tout le monde, Mina de Esdenu, nous pourrons conclure qu'il s'agit d'une sorte de chèvre, donc d'un animal domestique qui pourra être offert comme sacrifice sur l'autel. Matkifla, Rav Acha Bere de Ravika, Rav Acha, fils de Ravika, a objecté là-dessus, Vedilma Mina de Akoninhu. Peut-être que ces chèvres sauvages sont en fait la sorte que la Torah appelle Ako et dont le nom a changé par la suite. Finalement, peut-être que ces chèvres sauvages sont des animaux sauvages. Amarle, Ravina, le Ravashi, Ravina a posé la question suivante à Ravashi, Vedilma Mina de Teo, O Mina de Zemerninhu. Peut-être que ces chèvres sauvages font partie de la sorte que la Torah dénomme Teo, ou celle que la Torah dénomme Zemer, que nous ne connaissons pas vraiment. Il est donc possible que ces chèvres sauvages soient des animaux sauvages, qui ne peuvent pas être offerts comme sacrifice sur l'autel. L'Agma a conclu, nous lisons selon le Bach, Amarle, Rav Hanan, le Ravashi, Rav Hanan a dit à Ravashi, Amemar, Sharet Arbayou, Amemar permettait la graisse de ces chèvres sauvages en les considérant comme étant des animaux sauvages. Leur graisse sera donc permise, contrairement à celle des animaux domestiques. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit, Ketzad Hashochet, etc. Comment se présente l'interdiction d'abattre un animal et son petit? La Mishnah énumère toute une liste de cas. Alors la Gemara dit là-dessus, Amar Rabbi Oshaya, Kulav Matnitin, de l'Ok Rabbi Shimon, toute notre Mishnah ne suit pas l'opinion de Rabbi Shimon. Il demande, Mimai, d'où le sait-on? Il répond, Mide Katane, puisque la Mishnah enseigne le cas suivant, Kodashim Bachutz, si l'animal et son petit en question étaient des sacrifices qu'il a abattus en dehors du sanctuaire. Harishon Chayav Karet, pour avoir abattu le premier sacrifice, il sera sanctionné par la peine du retranchement dans le monde futur. Pour avoir abattu un sacrifice en dehors du sanctuaire, ou Shneem Psulim, et les deux animaux sont pasoul, interdits à la consommation, parce que finalement il s'agit de sacrifices qui n'ont pas été abattus correctement, ou Shnehem Sofgim et Arbaim, et les deux personnes, ou pour avoir abattu les deux animaux, la personne en question sera sanctionnée par la peine de flagellation. En effet, pour avoir abattu un sacrifice en dehors du sanctuaire, une personne méritera la flagellation en plus de la peine du retranchement dans le monde futur, voir le Tosfot. Et pour avoir abattu le deuxième animal, la personne sera condamnée à une peine de flagellation pour avoir abattu un animal et son petit. Mais en ce qui concerne l'interdiction d'abattre un sacrifice en dehors du sanctuaire, il ne sera pas condamné ni à une peine de flagellation ni à la peine du retranchement dans le monde futur, puisque ce deuxième animal ne pouvait pas être offert en tant que sacrifice, puisque la mère avait déjà été abattue le jour même. Par conséquent, celui qui abat le deuxième sacrifice le jour même ne sera pas condamné à la peine du retranchement dans le monde futur, ni à une peine de flagellation. En Rabbi Ushaya dit là-dessus, « Mirdesh aminan leh le Rabbi Shimon » étant donné que nous avons appris l'opinion de Rabbi Shimon, plus loin dans la Mishnah d'Af Pe'alef Amudbet, « Shrita she'na ruya lo shema shrita » un abattage qui n'est pas valable, c'est-à-dire qui ne permet pas à l'animal à la consommation, n'est pas considéré comme étant un abattage rituel. Par conséquent, l'interdiction d'abattre une mère et son petit ne s'applique pas. Nous tournons la page à Daf Pe'amudbet.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Tournons la page à Daf Pe'amudbet. Kama miktal katle. Le premier animal, nous considérons qu'il l'a simplement tué, puisque l'animal n'est pas permis à la consommation, étant donné que, comme nous l'avons expliqué, il s'agissait d'un sacrifice qui a été abattu à l'extérieur du sanctuaire. Puisque c'est ainsi, l'interdiction d'abattre la mère et son petit ne s'appliquera pas. Sheni mitkabel bifnimhu. Le deuxième animal, donc le petit, qui est aussi un sacrifice, est susceptible d'être agréé s'il avait été offert à l'intérieur du sanctuaire. Puisque finalement, comme nous l'avons dit, l'interdiction d'abattre la mère de son petit ne s'applique pas ici. Puisque c'est ainsi, lorsqu'il l'a abattu à l'extérieur du sanctuaire, karet nami l'ichayev, il devrait même être condamné à la peine du retranchement dans le monde futur pour avoir abattu un sacrifice à l'extérieur du sanctuaire. Et cela en plus de la peine de flagellation qui lui sera infligée pour avoir abattu un sacrifice à l'extérieur du sanctuaire, comme nous le voyons dans la Mishnah. Puis, poursuit Rabbi Oshaya, la Mishnah cite un autre cas. Si les deux animaux, l'animal et son petit en question, Chulin Bifnim, étaient des animaux profanes, donc qui n'étaient pas des sacrifices qui ont été abattus à l'intérieur du sanctuaire. Alors la Mishnah dit là-dessus, Shnehem Psulim, les deux animaux sont pasoul, interdits à la consommation, parce que ce sont des animaux n'étant pas des sacrifices qui ont été abattus à l'intérieur du sanctuaire, Ve'acheni Sofeg et Arbaim, et le deuxième, ou celui qui a abattu le deuxième animal, sera condamné à la peine de flagellation pour avoir abattu le petit d'un animal qui a été abattu le jour même. Alors la question se pose, Mirdesh aminan leh le Rabbi Shimon, étant donné que nous avons entendu l'opinion de Rabbi Shimon, comme nous l'avons dit précédemment, de Amar Shrita Shena Ruya Loshema Shrita, qu'un abattage rituel qui ne permet pas l'animal à la consommation n'est pas considéré comme étant un abattage rituel, l'interdiction d'abattre un animal et son petit ne s'applique pas. Kama Miktal Katle, le premier animal, nous considérons qu'il l'a simplement tué parce que ce premier animal qui n'était pas un sacrifice a été abattu à l'intérieur du sanctuaire. Il est donc interdit à la consommation. Puisque c'est ainsi, Sheni Amai Sofeg et Arbaim, pourquoi est-ce que le deuxième ou celui qui abat le deuxième animal est sanctionné par la peine de flagellation? Puisque finalement l'interdiction d'abattre l'animal et son petit ne s'applique pas ici, puisque nous considérons que le premier a été simplement tué, il a donc le droit d'abattre le petit. Puis, poursuit Rabbi Oshaya, la Mishnah cite un troisième cas. Si ces deux animaux en question, donc l'animal et son petit, étaient Kodashim Bifnim, des sacrifices qui ont été abattus à l'intérieur du sanctuaire, donc ont été sacrifiés. Harishon, Kacher, le premier animal est Kacher, permis à la consommation, c'est-à-dire le sacrifice est agréé ou patour, et celui qui l'a abattu, donc sacrifié, est exempté de toute peine. Vehacheni Sofeg et Arbaim, tandis que celui qui abat le deuxième animal est condamné à une peine de flagellation pour avoir abattu un animal dont la mère a été abattue le jour même. Ou Pasoul, Et en plus, ce deuxième sacrifice est pasoul, c'est-à-dire interdit à la consommation, parce qu'il n'a pas été offert correctement. Alors la question se pose, Mirde Shaminan le Rabbi Shimon, étant donné que nous avons entendu l'opinion de Rabbi Shimon, comme nous l'avons dit précédemment, Dama Shrita Shenaruya Loshema Shrita, qu'un abattage rituel qui ne permet pas l'animal à la consommation n'est pas considéré comme étant un abattage rituel, l'interdiction d'abattre un animal et son petit ne s'appliquera pas. Alors la question se pose, Shritat Kodashim, en ce qui concerne l'abattage rituel des sacrifices, Nami Shrita Shenaruyai, est aussi considéré comme un abattage qui ne permet pas l'animal à la consommation. Et cela parce que Derkama de Lozarigdam, parce que tant que le sang du sacrifice n'a pas été aspergé, l'omishtar et bassar, la chair, donc la viande de l'animal, n'est pas permise à la consommation. Finalement, comme explique le Tosfot, au moment où l'animal est abattu, cet abattage ne permet pas l'animal à la consommation. Puisque c'est ainsi, on devrait considérer que le premier animal a été simplement tué. L'interdiction d'abattre un animal et son petit ne s'appliquera pas ici. Alors la question se pose, premièrement, Amai Sofeg et Arbaim, pourquoi est-il condamné à une peine de flagellation? Puisque si nous disons que l'interdiction d'abattre un animal et son petit s'applique pour les sacrifices, le deuxième sacrifice est donc pasoul, puisqu'il est interdit de le sacrifier alors que sa mère a été abattue le jour même. Finalement, puisque ce sacrifice est pasoul, on devrait considérer que le deuxième animal a été simplement tué et non pas abattu rituellement. Par conséquent, la personne qui l'a fait ne devrait pas être condamnée à une peine de flagellation. Et en plus, pasoul, pourquoi est-ce que ce deuxième sacrifice est pasoul? Puisque comme nous l'avons expliqué, le premier sacrifice est aussi considéré comme ayant été tué parce qu'au moment de l'abattage, l'animal n'a pas été permis à la consommation tant que le sang n'a pas été aspergé. Finalement, l'interdiction d'abattre l'animal et son petit ne s'appliquera même pas ici. Le deuxième sacrifice devrait donc être agréé. Et là, Shema Mina, plutôt on devra conclure de là, de l'Ok Rabbi Shimon, que notre Mishnah ne suit pas l'opinion de Rabbi Shimon. Selon lui, l'interdiction d'abattre un animal et son petit ne s'appliquera pas lorsqu'il s'agit de sacrifice. Ou bien lorsque l'un des deux animaux qui a été abattu n'est pas permis à la consommation. Cependant, comme le précise le Tiferet Yaakov, Rabbi Shimon sera d'accord que l'interdiction d'abattre un animal et son petit s'appliquera dans le cas où le premier animal était un sacrifice qui a été sacrifié correctement, donc à l'intérieur du sanctuaire, et le deuxième est un animal profane qui a été abattu à l'extérieur du sanctuaire. La Gemara demande, Pshita, c'est évident de Achiita que c'est ainsi que l'interdiction d'abattre un animal et son petit ne s'appliquera pas lorsqu'il s'agit de sacrifice, selon l'opinion de Rabbi Shimon. Ma réponse, Shritat Kodashim Itztarich Aleh, Rabbi Oshaya a eu besoin de nous enseigner que même le cas où il s'agit de sacrifices qui ont été sacrifiés à l'intérieur du sanctuaire, quand même, l'interdiction d'abattre un animal et son petit ne s'appliquera pas. Salkadata Hamina, parce qu'en fait, il aurait pu te venir à l'esprit et dire Shritat Kodashim Shritaroyahi, en ce qui concerne l'abattage de sacrifices, c'est en fait un abattage à la suite duquel l'animal est permis à la consommation, deha i nachar vezarigdam, parce que s'il avait simplement arraché les organes vitaux, puis il avait aspergé le sang, l'omishtar et bassar, la viande n'est pas permise à la consommation, vechi shachat mishtar et bassar, mais s'il l'a abattu rituellement, puis il a aspergé le sang, la viande est permise à la consommation, ushrita ruyahi. Par conséquent, on devrait considérer l'abattage de ce sacrifice comme étant un abattage valable à la suite duquel l'animal sera permis à la consommation et l'interdiction d'abattre un animal et son petit s'appliquerait ici. Kamashmalan, c'est pour cela que Rabbi Oshaya a eu besoin de nous enseigner que même dans ce cas, selon l'opinion de Rabbi Shimon, l'interdiction d'abattre un animal et son petit ne s'appliquera pas parce que l'abattage de sacrifice est considéré comme étant un abattage à la suite duquel l'animal n'est pas permis à la consommation étant donné que la viande n'est pas permise tant que le sang n'a pas été aspergé. Nous venons de voir un des cas de la Mishnah, selon lequel lorsque l'animal et son petit étaient des sacrifices qui ont été sacrifiés à l'intérieur du sanctuaire, le deuxième est pasoul, parce qu'il était interdit de le sacrifier, étant donné que sa mère a été sacrifiée le jour même. Celui qui a sacrifié le deuxième sacrifice sera condamné à une peine de flagellation pour avoir abattu un animal dont la mère a été sacrifiée le jour même. Alors la Gemara demande, Vilil Kenami Mishum Lav de Mechusarzman, celui qui a battu, donc sacrifié le deuxième sacrifice, devrait être aussi condamné à une peine de flagellation pour avoir offert un sacrifice dont le moment de l'offrir n'est pas encore arrivé, puisque, comme nous l'avons dit, le jour même, il était interdit de le sacrifier. Détania, car il est enseigné dans une braïta. Minain le chol absolim shebeshor veshebese shehu belo yeratze. D'où sait-on que tous les sacrifices pasoul, qu'il s'agisse de taureaux ou qu'il s'agisse de moutons ou d'agneaux, sont concernés par l'interdiction exprimée par le pasouk que nous verrons, qui dit « et il ne sera pas agréé ». De là, nous apprenons, comme nous le verrons, qu'il est interdit de sanctifier ou de sacrifier ou même d'asperger le sang ou d'offrir sur l'autel un sacrifice pasoul. La Braïta répond, Talmud Lomar, c'est pour cela que le pasouk dit dans Vaikra Kavbet concernant les sacrifices infirmes, le pasouk dit « Veshor vese, sa roue avec alout, etc. » et un taureau ou un agneau dont un des membres est plus long que l'autre ou bien dont les sabots ne sont pas fendus, tu pourras l'offrir pour que sa contre-valeur serve à la réfection du temple ou le neder lo yeratze et il ne sera pas agréé comme sacrifice. Comme l'explique le Maharam, le terme de Veshor Vase, le taureau et l'agneau, sont en plus, puisque le pasouk parlait déjà précédemment de ce genre d'animaux. De là, nous apprenons que tout sacrifice pasoul, pour n'importe quelle raison qui soit, est concerné par cette interdiction. Il y a donc une interdiction générale d'offrir un sacrifice pasoul. Celui qui offre, par exemple, donc, un sacrifice dont la mère a été abattue le jour même, est aussi concerné par cette interdiction. Celui qui l'a fait devrait donc être condamné à une peine de flagellation pour avoir transgressé cette interdiction. Agma répond, « Qui kachashiv ?» Lorsque la Mishnah énumère les peines infligées aux contrevenants, « Lave de otoved beno » la Mishnah n'énumère que les interdictions transgressées par celui qui abat un animal et son petit. « Lave nuchrae lo kachashiv » Par contre, la Mishnah n'énumère pas des interdictions étrangères, donc d'autres types d'interdictions. Mais en fait, il est possible que cette personne qui a sacrifié un sacrifice dont la mère a été abattue le jour même sera aussi condamnée à une peine de flagellation pour avoir offert un sacrifice pasoul. La Gemara demande vélo, et non, est-ce que la Mishnah n'énumère pas des interdictions étrangères? Veha kodashim bachutz, pourtant, en ce qui concerne l'interdiction d'offrir des sacrifices à l'extérieur du sanctuaire de l'Avenu Chayninu, il s'agit d'interdiction étrangère à l'interdiction d'abattre un animal et son petit, Vekachashiv, et la Mishnah les énumère quand même. Des Katané, car il est enseigné, plus haut dans la Mishnah, Kodashim Bachutz, si les deux animaux en question étaient des sacrifices qui ont été abattus à l'extérieur du sanctuaire, Harishon Chayav Karet, celui qui a abattu le premier sacrifice, sera condamné à la peine du retranchement dans le monde futur pour avoir abattu un sacrifice en dehors du sanctuaire, Ushnehem Sofgim et Arbaim, et les deux, donc celui qui a abattu le premier et celui qui a abattu le deuxième animal, seront condamnés à une peine de flagellation. Bishlama Sheni, on comprend bien encore que le second soit condamné à une peine de flagellation, Mishum Lav de Oto Bet Beno, pour avoir transgressé l'interdiction d'abattre un animal et son petit, et la Rishon à Maïsofeg, mais le premier, pourquoi est-il condamné à une peine de flagellation? Lav Mishum, Lav de Shrutechut, n'est-ce pas à cause de l'interdiction d'avoir abattu un sacrifice en dehors du sanctuaire? Finalement, nous voyons que la Mishnah énumère aussi des interdictions étrangères. L'Agma répond, Kol Hecha Deleka Lav de Otoved Beno, partout où il n'y a pas l'interdiction d'abattre un animal et son petit, par exemple, en ce qui concerne le premier animal, Chashiv lave nuchae, la Mishnah énumère aussi des interdictions étrangères. Vechol hecha deika lav de otoved beno. Par contre, là où il y a l'interdiction d'abattre un animal et son petit, donc en ce qui concerne le deuxième animal, lo chashiv lave nuchae, la Mishnah n'énumère pas des interdictions étrangères. Mais en fait, il se peut qu'il y en ait encore. Rabbi Zera Amar, Hanach le Mechusarzman, laisse l'interdiction d'abattre un sacrifice dont le moment de l'offrir n'est pas encore arrivé, c'est-à-dire, pour celui-ci, une personne n'est pas condamnée à une peine de flagellation, Deakatouv, car le Pasouk, nous passons à Daf Pe'alef Amoud Alef.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.